Pierre Loti, Ramuncho, première partie, chapitre 1. Les tristes courlis, annonciateurs de l'automne, venaient d'apparaître en masse dans une bourrasque grise, fuyant la haute mer sous la menace des tourmentes prochaines. À l'embouchure des rivières méridionales, de la Dour de la Nivelle, de la Bidassoa qui longe l'Espagne, ils erraient au-dessus des eaux déjà froidies, volant bas, rasant de leurs ailes le miroir des surfaces. Et leur cri, à la tombée de la nuit d'octobre, semblait sonner la demi-mort annuelle des plantes épuisées. Sur les campagnes pyrénéennes, toutes de broussailles ou de grands bois, les mélancolies des soirs pluvieux d'arrière-saison descendaient lentement, enveloppantes comme des suaires, tandis que Ramuncho cheminait par le sentier de mousse sans bruit, chaussé de semelles de cordes, souple et silencieux dans sa marche de montagnard. Ramuncho arrivait à pied de très loin, remontait des régions qui avoisinent la mer de Biscaye, vers sa maison isolée, qui était là-haut dans beaucoup d'ombre, près de la frontière espagnole. Autour du jeune passant solitaire qui montait si vite sans peine, et dont la marche en espadrille ne s'entendait pas, des lointains toujours plus profonds se creusaient de tous côtés, très estompés de crépuscules et de brumes. L'automne s'indiquait partout. Les maïs, herbages des lieux bas, si magnifiquement verts au printemps, étalaient des nuances de paille morte au fond des vallées, et sur tous les sommets, des hêtres et des chênes s'effeuillaient. L'air était presque froid. Une humidité odorante sortait de la terre moussue, et de temps à autre, il tombait d'en haut quelques ondées légères. On la sentait proche et angoissante, cette saison des nuages et des longues pluies, qui revient chaque fois avec son même air d'amener l'épuisement définitif des sèves et l'irrémédiable mort, mais qui passe comme toute chose et qu'on oublie au suivant renouveau. Partout, dans la mouillure des feuilles jonchant la terre, dans la mouillure des herbes longues et couchées, il y avait des tristesses de faim, de muettes résignations ou décompositions fécondes. Mais l'automne, lorsqu'il vient finir les plantes, n'apporte qu'une sorte d'avertissement lointain à l'homme un peu plus durable, qui résiste, lui, à plusieurs hivers, et se laisse plusieurs fois leurrer au charme des printemps. L'homme, par les soirs pluvieux d'octobre et de novembre, éprouve surtout l'instinctif désir de s'abriter au gîte, d'aller se réchauffer devant l'âtre, sous le toit que tant de millénaires amoncelés lui ont progressivement appris à construire. Et Ramuncho sentait s'éveiller au fond de soi-même les vieilles aspirations ancestrales vers le foyer basque des campagnes, le foyer isolé, sans contact avec les foyers voisins. Il se hâtait davantage vers le primitif logis où l'attendait sa mère. Ça et là, on les apercevait au loin, indécises dans le crépuscule, les maisonnettes basques, très distantes les unes des autres, point blanc ou grisâtre, tantôt au fond de quelques gorges enténébrées, tantôt sur quelques contreforts des montagnes au sommet perdu dans le ciel obscur, presque négligeables, ces habitations humaines, dans l'ensemble immense de plus en plus confus des choses, négligeables et s'annihilant même tout à fait, à cette heure devant la majesté des solitudes et de l'éternelle nature forestière. Ramuncho s'élevait rapidement, leste, hardi et jeune, enfant encore, capable de jouer en route, comme s'amusent les petits montagnards avec un caillou, un roseau ou une branche que l'on taille en marchant. L'air se faisait plus vif, les alentours plus âpres, et déjà ne s'entendaient plus les cris des courlis, leurs cris de poulies rouillées sur les rivières d'en bas. Mais Ramuncho chantait l'une de ces plaintives chansons des vieux temps, qui se transmettent encore au fond des campagnes perdues, et sa naïve voix s'en allait dans la brume ou la pluie, parmi les branches mouillées des chênes, sous le grand suaire toujours plus sombre de l'isolement, de l'automne et du soir. Pour regarder passer très loin, en dessous de lui, un char à bœufs, il s'arrêta un instant, pensif. Le bouvier qui menait le long attelage chantait aussi. Par un sentier rocailleux et mauvais, cela descendait dans un ravin baigné d'une ombre déjà nocturne. Et bientôt, cela disparut un tournant, masqué tout à coup par des arbres, et comme évanoui dans un gouffre. Alors, Ramuncho sentit l'étreinte d'une mélancolie subite, inexpliquée comme la plupart de ses impressions complexes, et par un geste habituel, Tout en reprenant sa marche moins alerte, il ramena en visière sur ses yeux gris très vifs et très doux le rebord de son béret de laine. Pourquoi? Qu'est-ce que cela pouvait lui faire, ce chariot, ce bouvier chanteur qu'il ne connaissait même pas? Évidemment rien. Cependant, de les avoir vus ainsi disparaître pour aller se gîter, comme sans doute chaque nuit, en quelque métairie isolée dans un bas-fond, la compréhension lui était venue plus exacte de ses humbles existences de paysan, attaché à la terre et au champ natal, de ses vies humaines aussi dépourvues de joie que celles des bêtes de labour, mais avec des déclins plus prolongés et plus lamentables. Et en même temps, dans son esprit avait passé l'intuitive inquiétude des « ailleurs », des mille choses autres que l'on peut voir ou faire en ce monde, et dont on peut jouir, un chaos de demi-pensées troublantes, de ressouvenirs ataviques et de fantômes venaient furtivement de s'indiquer au tréfonds de son âme d'enfant sauvage. Ce qu'il était, lui, Ramuncho, un mélange de deux races très différentes, de deux êtres que séparaient l'un de l'autre, si l'on peut dire, un abîme de plusieurs générations, créé par la fantaisie triste d'un des raffinés de nos temps de vertige, il avait été inscrit à sa naissance comme « fils de père inconnu » et ne portait d'autre nom que celui de sa mère. Aussi ne se sentait-il pas entièrement pareil à ses compagnons de jeu ou de saine fatigue. Silencieux pour un moment, il marchait moins vite vers son logis par les sentiers déserts serpentant sur les hauteurs. En lui, le chaos des choses autres, des ailleurs lumineux, des splendeurs ou des épouvantes étrangères à sa propre vie, s'agitait confusément, cherchant à se démêler. Mais non, tout cela, qui était l'insaisissable et l'incompréhensible, restait sans lien, sans suite et sans forme, dans des ténèbres. À la fin, n'y pensant plus, il recommença de chanter sa chanson. Elle disait par couplets monotones les plaintes d'une fileuse de lin dont l'amant, parti pour une guerre éloignée, tardait à revenir. Elle était en cette mystérieuse langue scarienne, dont l'âge semble incalculable et dont l'origine demeure inconnue. Et peu à peu, sous l'influence de la mélodie ancienne, du vent et de sa solitude, Ramuncho se retrouva ce qu'il était, au début de sa course, un simple montagnard basque de 16 à 17 ans, formé comme un homme, mais gardant des ignorances et des candeurs de tout petit garçon. Bientôt il aperçut Etchezar, sa paroisse, son clocher massif comme un donjon de forteresse. Auprès d'église, quelques maisons étaient groupées. Les autres plus nombreuses avaient préféré se disséminer aux environs, parmi des arbres, dans des ravins ou sur des escarpements. La nuit tombait tout à fait, hâtive ce soir, à cause des voiles sombres accrochées aux grands cimes. Autour de ce village, en haut, ou bien dans les vallées d'en dessous, le Pays basque apparaissait en ce moment comme une confusion de gigantesques masses obscures. De longues nuées dérangeaient les perspectives. Toutes les distances, toutes les profondeurs étaient devenues inappréciables. Les changeantes montagnes semblaient avoir grandi dans la nébuleuse fantasmagorie du soir. L'heure, on ne sait pourquoi, se faisait étrangement solennelle, comme si l'ombre des siècles passés allait sortir de la terre. Sur ce vaste soulèvement qui s'appelle Pyrénées, on sentait planer quelque chose qui était peut-être l'âme finissante de cette trace, dont les débris se sont là conservés et à laquelle Ramuncho appartenait par sa mère. Et l'enfant, composé de deux essences si diverses, qui cheminait seul vers son logis, à travers la nuit et la pluie, recommençait à éprouver au fond de son être double l'inquiétude des inexplicables ressouvenirs. Enfin, il arriva devant sa maison, qui était très élevée, à la mode basque, avec de vieux balcons en bois sous d'étroites fenêtres, et dont les vitres jetaient dans la nuit du dehors une lueur de lampe. Près d'entrer, le bruit léger de sa marche s'atténua encore dans l'épaisseur des feuilles mortes. Les feuilles de ces platanes taillées en voûte qui, suivant l'usage du pays, forment une sorte d'atrium devant chaque demeure. Elle reconnaissait de loin le pas de son fils, la sérieuse Franchita, pâle et droite dans ses vêtements noirs, celle qui jadis avait aimé et suivi l'étranger, puis qui, sentant l'abandon prochain, était courageusement revenue au village pour habiter seule la maison délabrée de ses parents morts. Plutôt que de rester dans la grande ville, là-bas, d'y être gênante et quémandeuse. Elle avait vite résolu de partir, de renoncer à tout, de faire un simple paysan basque de ce petit Ramuncho, qui, à son entrée dans la vie, avait porté des robes brodées de soie blanche. Il y avait 15 ans de cela, 15 ans qu'elle était revenue clandestinement, à une tombée de nuit pareille à celle-ci. Dans les premiers temps de ce retour, muette et hautaine, avec ses compagnes d'autrefois par crainte de leur dédain, elle ne sortait que pour aller à l'église, la mantille de drap noir abaissée sur les yeux. Puis, à la longue, les curiosités apaisées, elle avait repris ses habitudes d'avant, si vaillante d'ailleurs et si irréprochable que tous l'avaient pardonnée. Pour accueillir et embrasser son fils, elle sourit de joie et de tendresse. Mais, silencieux par nature, renfermés tous deux, ils ne se disaient guère que ce qu'il était utile de se dire. Lui s'assit à sa place accoutumée pour manger la soupe et le plat fumant qu'elle lui servit sans parler. La salle, soigneusement peinte à la chaux, s'égayait à la lueur subite d'une flambée de branches dont la cheminée haute et large, garnie d'un feston de calicot blanc. Dans des cadres accrochés en bon ordre, il y avait les images de première communion du Ramuncho, et différentes figures de saints et de saintes, avec des légendes basques, puis la Vierge du Pilar, la Vierge des Angoisses, et des chapelets, des rameaux bénis. Les ustensiles du ménage luisaient, bien alignés sur des planches scellées aux murailles. Chaque étagère toujours ornée d'un de ces volants en papier rose, découpés et ajourés, qui se fabriquent en Espagne, et où sont invariablement imprimées des séries de personnages dansant avec des castagnettes, ou bien des scènes de la vie des toréadors. Dans cet intérieur blanc, devant cette cheminée joyeuse et claire, on éprouvait une impression de chez soi, un tranquille bien-être qu'augmentait encore la notion de la grande nuit mouillée d'alentour, du grand noir des vallées, des montagnes et des bois. Franchita, comme chaque soir, regarda longuement son fils, le regardait embellir et croître, prendre de plus en plus un air de décision et de force, à mesure qu'une moustache brune se dessinait davantage au-dessus de ses lèvres fraîches. Quand il eut soupé, mangé avec son appétit de jeune montagnard plusieurs tranches de pain et bu deux verres de cidre, il se leva disant « Je m'en vais dormir, car nous avons du travail pour cette nuit. »« Ah ?» demanda la mère. « Et à quelle heure dois-tu te réveiller ?»«
À 1 heure, sitôt la lune couchée. On viendra siffler sous la fenêtre. »
Qu'est-ce que c'est ?
Des ballots de soie et des ballots de velours.
Et avec qui vas-tu ?
Bon, les mêmes que d'habitude. À Rochecoa, Florentino et les frères Iragola.
C'est comme l'autre nuit, pour le comte d'Itchoua, avec qui je viens de m'engager.
Bonsoir, ma mère.
Ah, nous ne serons pas tard dehors. Et sûr, je rentrerai avant l'heure de la messe.
Alors Franchita pencha la tête sur l'épaule solide de son fils, avec une câlinerie presque enfantine, différente tout à coup de sa manière habituelle, et la joue contre la sienne, elle resta longuement et tendrement appuyée comme pour dire, dans un confiant abandon de volonté,
« Cela me trouble encore un peu, ces entreprises de nuit. Mes réflexions faites, ce que tu veux est toujours bien. Je ne suis qu'une dépendance de toi, et toi, tu es tout. »
Sur l'épaule de l'étranger, jadis, elle avait coutume de s'appuyer et de s'abandonner ainsi, dans le temps où elle l'aimait. Quand Ramuncho fut monté dans sa petite chambre, elle demeura songeuse plus longtemps que de coutume avant de reprendre son travail d'aiguille. Ainsi, cela devenait décidément son métier, ses courses nocturnes, où l'on risque de recevoir les balles des carabiniers d'Espagne. D'abord, elle avait commencé par amusement, par bravade, comme font la plupart d'entre eux, et comme en ce moment débutait son ami à Rochka, dans la même bande que lui. Ensuite, peu à peu, il s'était fait un besoin de cette continuelle aventure des nuits noires. Il désertait de plus en plus pour ce métier rude, l'atelier en plein vent du charpentier, où elle l'avait mis en apprentissage à tailler des solives dans des troncs de chêne. Et voilà donc ce qu'il serait dans la vie, son petit Ramuncho, autrefois si choyée en robe blanche, et pour qui elle avait naïvement fait tant de rêves. Contrebandier. Contrebandier et joueur de pelote. Deux choses d'ailleurs qui vont bien ensemble, et qui sont basques, essentiellement. Elle hésitait pourtant encore à lui laisser suivre cette voie imprévue. Non par dédain pour les contrebandiers, oh non, non, car son père à elle l'avait été, ses deux frères aussi, l'aîné tué d'une balle espagnole au front, une nuit qu'il traversait à la nage la baie d'Assoa, le second, réfugié aux Amériques, pour échapper à la prison de Bayonne. L'un et l'autre respectés pour leur audace et leur force. Non, mais lui, Ramuncho, le fils de l'étranger, lui sans doute aurait pu prétendre à l'existence moins dure des hommes de la ville, si, dans un mouvement irréfléchi et un peu sauvage, elle l'avait séparé de son père pour le ramener à la montagne basque. En somme, il n'était pas son cœur, le père de Ramuncho. Quand fatalement il s'était lassé d'elle, il avait fait quelques efforts pour ne pas le laisser voir, et jamais il ne l'aurait abandonnée avec son enfant, si, d'elle-même, par fierté, elle n'était partie. Alors ce serait peut-être un devoir aujourd'hui de lui écrire pour lui demander de s'occuper de son fils. Et maintenant, l'image de Gracieux se présentait tout naturellement à son esprit, comme chaque fois qu'elle songeait à l'avenir de Ramuncho. Celle-là, c'était la petite fiancée que depuis tantôt 10 ans, elle souhaitait pour lui. Dans les campagnes encore en arrière, de façon actuelle, c'est l'usage de se marier tout jeune, souvent même de se connaître et de se choisir dès les premières années de sa vie. Une petite aux cheveux ébouriffés en nuages d'or, fille d'une amie d'enfance à elle, Franchita, d'une certaine Dolores d'Etchari, qui avait toujours été orgueilleuse, qui était restée méprisante depuis l'époque de la grande faute. Certes, l'intervention du père dans l'avenir de Ramuncho serait un appoint décisif pour obtenir la main de cette petite, et permettrait même de la demander à Dolores avec une certaine hauteur, après les rivalités anciennes. Mais Franchita sentait un grand trouble à pénétrer tout entière, à mesure que se précisait en elle la pensée de s'adresser à cet homme, de lui écrire demain, de le revoir peut-être, de remuer cette cendre. Puis, elle retrouvait en souvenir le regard si souvent assombri de l'étranger. Elle se rappelait ces vagues paroles de lassitude infinie, d'incompréhensibles espérances. Il avait l'air de voir toujours au-delà de son horizon à elle, des lointains de gouffres ou de ténèbres. Et bien qu'il ne fût pas un insulteur de choses sacrées, jamais il ne priait, lui donnant ce surcroît de remords de s'être allié à quelque païen pour qui le ciel resterait fermé. Ses amis d'ailleurs étaient pareils à lui, des raffinés eux aussi, sans foi, sans prière, échangeant entre eux, à demi-mots légers, des pensées d'abîme. Mon Dieu, si Ramuncho à leur contact allait devenir comme eux tous, et déserter les églises, fuir les sacrements et la messe. Alors, elle se remémorait les lettres de son vieux père, aujourd'hui décomposées dans la terre profonde sous une dalle de granit, contre les fondations de son église paroissiale. Ses lettres, en langue scarienne, qu'il lui adressait là-bas, après les premiers mois d'indignation et de silence, dans la ville où elle avait traîné sa faute. Au moins, ma pauvre Franchita, ma fille, es-tu dans un pays où les hommes sont pieux et vont régulièrement aux églises? Oh non, ils n'étaient guère pieux, les hommes de la grande ville. Pas plus les élégants dont le père de Ramuncho faisait sa compagnie que les plus humbles travailleurs du quartier de banlieue où elle vivait cachée. Tous, emportés par un même courant, loin des dogmes héréditaires, loin des antiques symboles. Et Ramuncho, dans de tels milieux, comment résisterait-il? D'autres raisons encore moindres, peut-être, l'arrêtaient aussi. Sa dignité hautaine qui, là-bas, dans cette ville, l'avait maintenue honnête et solitaire, se cabrait vraiment à l'idée qu'il faudrait reparaître en solliciteuse devant son amant d'autrefois. Puis, son bon sens supérieur, que rien n'avait jamais pu égarer ni éblouir, lui disait du reste qu'il était trop tard à présent pour tout changer. Que Ramuncho, jusqu'ici ignorant et libre, ne saurait plus atteindre les dangereuses régions du vertige où s'était élevée l'intelligence de son père, mais plutôt qu'il languirait en dessous comme un déclassé. Et enfin un sentiment presque inavoué elle-même gisait très puissant au fond de son cœur. La crainte angoissée de le perdre, ce fils, de ne plus le guider, de ne plus le tenir, de ne plus l'avoir. Alors en cet instant, des réflexions décisives, après avoir hésité durant des années, Voici que de plus en plus, elle inclinait à s'entêter pour jamais dans son silence vis-à-vis de l'étranger, et à laisser couler humblement la vie de son Ramuncho près d'elle, sous le regard protecteur de la Vierge, des saints et des saintes. Restait la question de Gracieuse Dechary. Eh bien, mais elle l'épouserait quand même, son fils, tout contrebandier et pauvre qu'il allait être. Avec son instinct de mère un peu farouchement aimante, elle devinait que cette petite était déjà prise assez pour ne se déprendre jamais. Elle avait vu cela dans ses yeux noirs de 15 ans, obstinés et graves, sous le nimbe doré de ses cheveux. Gracieuse, épousant Ramuncho, pour son charme seul, envers et contre la volonté maternelle. Ce qu'il y avait de rancuneux et de vindicatif dans l'âme de Franchita se réjouissait même tout à coup de son plus grand triomphe sur la fierté de Dolores. Autour de la maison isolée, où sous le grand silence de minuit elle décidait seule de l'avenir de son fils, l'esprit des ancêtres basques flottait, sombre et jaloux, aussi dédaigneux de l'étranger, craintif des impiétés, des changements, des évolutions de race. L'esprit des ancêtres basques, le vieil esprit immuable qui maintient encore ce peuple les yeux tournés vers les âges antérieurs, le mystérieux esprit séculaire par qui les enfants sont conduits à agir comme avant eux leur père avait agi, au flanc même des montagnes, dans les mêmes villages, autour des mêmes clochers. Un bruit de pas, maintenant, dans le noir du dehors. Quelqu'un marchant doucement en espadrille sur l'épaisseur des feuilles de platane, ont jonché par terre. Puis, un coup de sifflet d'appel. « Comment ? Déjà ? Déjà 1 heure du matin ?» Tout à fait résolue à présent, elle ouvrit la porte au chef contrebandier avec un sourire accueillant, que celui-ci ne lui connaissait pas. « Entrez, Ichwa, dit-elle, « chauffez-vous, tandis que je vais moi-même réveiller le fils. » Un homme grand et large, cet Ichwa, maigre, avec une épaisse poitrine entièrement rasée, comme un prêtre, suivant la mode des basques de vieille souche. Sous le béret qu'il n'ôtait jamais, une figure incolore, inexpressive, taillée comme à coups de serpe, et rappelant les personnages imberbes, archaïquement dessinés sur les missels du XVe siècle. Au-dessous de ses joues creusées, la carrure des mâchoires, la saillie des muscles du cou, donnaient la notion de son extrême force. Il avait le type basque accentué à l'excès, des yeux trop rentrés sous l'arcade frontale, des sourcils d'une rare longueur, dont les pointes, abaissées comme chez les madones pleureuses, rejoignaient presque les cheveux aux tempes. Entre 30 ans ou 50 ans, il était impossible de lui assigner un âge. Il s'appelait José Maria Gorostegui, et d'après la coutume, n'était connu dans le pays que sous ce surnom d'Ichwa, l'aveugle, donné jadis par plaisanterie, à cause de sa vue perçante qui plongeait dans la nuit comme celle des chats. D'ailleurs, chrétien pratiquant, marguillé de sa paroisse et chantre à voix tonnante, fameux aussi pour sa résistance aux fatigues, capable de gravir les pentes pyrénéennes durant des heures au pas de course avec de lourdes charges sur les reins. Ramuncho descendit bientôt, frottant ses paupières encore alourdies d'un jeune sommeil, et à son aspect, le morne visage d'Ichwa fut illuminé d'un sourire. Continuel chercheur de garçons énergiques et forts pour les enrôler dans sa bande, sachant les y retenir malgré des salaires minimes par une sorte de point d'honneur spécial, il s'y connaissait en jarret, en épaule, aussi bien qu'en caractère, et il faisait grand cas de sa recrue nouvelle. Franchita, avant de les laisser partir, appuya encore la tête un peu longuement contre le cou de son fils, puis elle accompagna les deux hommes jusqu'au seuil de sa porte, ouverte sur le noir immense, et récita pieusement le pater pour eux, tandis qu'ils s'éloignaient dans l'épaisse nuit, dans la pluie, dans le chaos des montagnes, vers la ténébreuse frontière.